Cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 7 février 1989.
Alors, nous allons commencer aujourd'hui à essayer de voir comment, au plan philosophique, nous pouvons faire une philosophie de la matière. J'appellerai comme ça, vous voyez. Puisqu'au fond, les autres philosophies, vous voyez, on dit philosophe, on ne dit pas la philosophie de substance. On dit la philosophie du vivant. On ne dit pas la philosophie de l'âme. Or, la nature est un principe. Vous n'expérimentez pas la nature. Et vous partez plutôt de l'étiquette de ce que vous expérimentez. Alors, la très grosse difficulté pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez feuilleté dans vos loisirs philosophiques. Je crois que c'est le livre de Aubert, hein, qui a été édité chez les éditions classiques là, de l'Institut catholique. Non, pas chez Maillot. Non, c'est Beaugène. Philosophie. Il a édité une philosophie de la nature en montrant l'histoire de la philosophie de la nature. C'est plus historique, mais c'est intéressant comme topic. Il a fait le gros boulot de la philosophie. Mais il n'y a rien d'autre que le topic. C'est intéressant, regardez ça. Vous voyez, je crois que, de fait, constamment, aujourd'hui, si on dit une philosophie de la nature, il faut la distinguer de la physique. Comme on dira philosophie du vivant, il faut la distinguer de la biologie. Là, je crois qu'il y a deux problèmes tout à fait différents. Il y a le problème philosophique et le problème critique. Que dans un problème critique, on voit la différence de la philosophie de la matière et de la physique, tout à fait d'accord. Mais on ne commence jamais par un problème critique, si on n'est pas conscient. Si on n'est conscient, la critique est devant. Si on n'est pas conscient, non, on cherche à voir comment se pose ce nouveau problème de la philosophie de la matière. Et je crois, pour nous, ça doit se poser à partir de la philosophie artistique. Je dis à partir, comprenez bien. C'est la philosophie artistique qui montre qu'il y a tout un domaine qui échappe complètement à l'art. Parce qu'il est premier. Et c'est pour ça que je dis philosophie de la matière. Vous voyez, pour le menuisier, qu'est-ce qui échappe à l'art de la menuiserie, c'est le bois ou l'est la matière. Qu'est-ce qui échappe pour celui qui travaille le fer? C'est le fer. Et ainsi de suite. Autrement dit, il y a un donné dans la nature. Le monde a existé avant l'art. Drôle d'histoire. Et Platon souligne ça, vous voyez, très fort. Et Aristote aussi. Ça existait avant l'art. Et donc ce monde qui a existé avant l'art, qu'est-ce qu'il est pour l'homme? Et c'est ce monde-là que je regarde. Et Monsieur Teste, dans Valérie, qui est au bord de la plage, qui regarde un petit caillou, qui se demande si ce caillou est une œuvre naturelle ou une œuvre d'art. Les archéologues se posent la question en traversant le désert de Juda. Première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé une pierre admirable, une sorte de silex comme ça. J'ai demandé si c'était taillé par l'homme, ou tout simplement la nature. J'ai demandé à des archéologues de Jérusalem, comme c'était pas d'archéologie juive, ils n'étaient pas très calés. Et mon père Devaux a dit, c'est possible, je n'oserais pas vous l'affirmer, mais c'est très possible que ce soit un premier silex, tout à fait premier, qui soit perdu là-dedans. Si c'est un premier silex, c'est très intéressant. Si c'est simplement, bon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est très vrai, ce que bon. Si c'est un premier silex, c'est très intéressant. Parce que sûrement, il est très très ancien. J'ai quand même pris dans ma poche. Vous voyez, le problème qui se pose tout de suite, initialement, pour moi, c'est ça. C'est que la philosophie de l'art, qui est une philosophie pratique, réclame une autre partie de la philosophie. C'est pas la philosophie des résidus. C'est la philosophie de ce qui est antérieur à l'art. Je poserai le problème de la philosophie de la matière à partir de la philosophie de l'art. Aujourd'hui, c'est très net. Et non pas du tout à partir de la physique. Si vous posez à partir de la physique, vous ne savez plus très bien ce que vous dites. La physique est quand même postérieure. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir. Il y a eu une réflexion sur la nature, sur la matière, bien antérieure à la science. Toute la réflexion d'Aristote et physique, c'est une réflexion qui n'est pas scientifique au sens moderne, qui existe cependant. Alors qu'est-ce que les sciences modernes de physique vont-elles déloger de la physique d'Aristote? Voilà ce que je pourrais me demander. J'ai pas le droit de faire ce raisonnement-là comme certains le font. Philosophie de la nature pour Aristote, puis physique moderne. La physique moderne déloge ça. C'est pas scientifique. Oui, mais ça peut être philosophique. Ça, c'est une apparition. On priait pour lui pendant la messe en disant qu'est-ce qu'il est devenu. Il s'est tué. Pas encore pour le moment. On aurait fait une oraison funèbre. Au mieux. On a prié pour vous, parce que quand j'attendais, je lui ai dit qu'il y avoir un accident avec le brouillard qui fait. Non. Alors, physique, je n'ai pas le droit de dire ça. C'est une philosophie. Ici, c'est une science moderne. Alors, vous voyez, la science moderne ne déloge pas la philosophie. Avant de dire que la science moderne déloge la philosophie, il faut être sûr que la philosophie moderne, que la physique moderne, que la science moderne s'occupe de l'homme. S'occupe de ce qui est ou ce qui devient. Il faut être sûr. La science moderne dit quelque chose de très intéressant. Elle est inféodée aux mathématiques. Ça, c'est sûr. Tout le monde est d'accord. Il y a un lien. Très curieux. Est-ce que la philosophie de la nature peut être inféodée aux mathématiques? Non. Pour Aristote, non. C'est catégorique. Pour Platon, oui. Mais pas pour Aristote. Si j'étais platonicien, vous voyez, si j'étais platonicien, je dirais, il y a un lien de continuité entre les mathématiques et la philosophie de la nature. Mais le raisonnement d'Aristote me semble parfait. Les mathématiques ne sont pas de la philosophie. Pourquoi ? Parce qu'elles ne regardent pas finalité. Parce qu'elle ne regarde pas l'homme. Parce qu'elle ne s'intéresse pas au jugement d'existence. Je précise un peu la pensée d'Aristote en disant ça. Hein. Mais c'est dans le sens de la philosophie d'Aristote. Donc, vous voyez, nous reviendrons là-dessus. Si on a le temps, tu vois, c'est ce que vous faites dans votre séminaire sur les degrés de science. Vous êtes obligé de regarder quel est le degré d'abstraction. Sans dire les trois degrés d'abstraction, parce que ça, je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux pas le dire. Il vaut mieux pas. Ça, c'est la scolastique. Parce que accepter ça autrement, tout à fait autrement. Alors, il faut faire un petit peu attention. Saint Thomas le reprend dans des Trinitatis de Boès. C'est des textes majeurs, très, très importants dans des Trinitatis de Boès. Il y a tout un passage sur les différentes manières d'abstraire, et par le fait même les sciences. Mais c'est un problème de critique, ça. Or, la critique, par définition, n'est pas féconde. C'est très intéressant, c'est capital, mais c'est pas fécond. Ça présuppose une fécondité. Et vous faites la critique après avoir établi votre philosophie de la nature ou votre philosophie de la matière. Et vous voyez, si je mets philosophie de la matière, c'est pour mieux comprendre la continuité qui existe entre philosophie de l'art ou de l'activité artistique et la matière. On ne dira pas que l'art travaille la nature. On dira que l'art travaille la matière. Et par le fait même, ce qui m'intéresse, c'est que la matière est antérieure à l'activité artistique. Donc l'activité artistique ne me dit pas ce que c'est que la matière. Vous voyez, là, je mets tout de suite en garde contre le marxisme. Et je me sépare de Marx. Parce que pour Marx, il n'y a pas d'autre connaissance de la matière que la praxis. Tandis que pour nous, il y a une connaissance de la matière en dehors de la praxis. Il y a quelque chose qui s'impose à moi, qui est antérieur, et que je peux connaître en dehors de l'activité artistique. C'est, je dirais, vous voyez là, c'est aussi critique, si vous voulez, mais c'est une condition sine qua non pour entrer en philosophie de la matière. Donc, je ferai une petite préface, vous voyez, pour montrer que l'activité artistique est une certaine connaissance, du moins la philosophie de l'activité artistique, est une certaine connaissance de l'homme qui domine la matière et la transforme. Mais avant cette connaissance, avant, dans l'ordre de nature, pas dans l'ordre génétique, il y a possibilité d'une connaissance de la matière ou de la nature pour elle-même. Je vais donc essayer de connaître la matière pour elle-même et non pas pour l'œuvre qui pourrait sortir de la matière. Je vois donc tout de suite deux finalités à la connaissance. Une qui conduit à l'œuvre, l'autre qui, de fait, se satisfait de connaître la matière pour elle-même. Je crois que ça doit sonner dans une introduction. Pour qu'on situe exactement ce qu'est la philosophie de la matière. Mais je ne parle absolument pas de la physique contemporaine. C'est tout à fait un autre problème. La physique contemporaine ne me sert à rien pour élaborer une philosophie de la nature. Elle me sert à une seule chose. C'est d'éviter de ne pas être philosophe. et puis d'être pas être philosophe. C'est-à-dire d'imaginer. C'est sûr que la science moderne, à ce point de vue-là, peut être très précieuse. Parce que, pour Aristote, il n'y avait pas d'autre connaissance de la nature que la philosophie. Pas d'autre connaissance de la matière que la philosophie. Pour nous, il y a deux autres connaissances. Pour Aristote, il y en avait déjà une. Il y avait l'art. Pour nous, il y a l'art et la science. Mais l'art est plus proche de la philosophie que la science. Ça, il faudra l'établir dans votre recherche sur les degrés du savoir. C'est une piste extrêmement intéressante. Comme dit Aristote, l'art est plus proche de la philosophie que l'histoire. Et nous pouvons ajouter, l'art est plus proche de la philosophie que les sciences modernes. C'est très ruinant ici pour la culture moderne. Et c'est un fait. Pourquoi ? Parce que l'art est plus proche de l'homme que la science moderne. La science moderne est sous l'influence mathématique. Ça, on ne peut pas dire. La biologie peut essayer d'en sortir, parce qu'elle sent bien qu'il faudrait qu'elle en sorte. Mais elle n'en sortira que le jour où il y aurait une vraie philosophie du vivant. À ce moment-là, ce sera une libération. Très curieux. Et c'est très intéressant de voir ça. Je crois qu'il faut, dans une introduction, bien comprendre ça. Il y a des difficultés, vous les poserez tout de suite, hein, ici. On n'est pas nombreux. Alors le cours peut prendre une autre allure. Mais, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, parce qu'on avance progressivement ensemble. Vous voyez ? Là, il faut bien comprendre que le problème se pose à partir de la philosophie de l'art, de l'activité artistique, de la matière. La matière qui est tout l'univers. Donc, philosophie de l'univers. Alors, vous pouvez mettre philosophie de l'univers. Et en prenant que c'est d'abord la matière, ce qui est immédiat. Parce que vous comprenez, dans cette philosophie de la matière, de l'univers, il y a le ciel. Ah, le ciel, l'artiste n'agit pas beaucoup dessus. Vous essayez de capter les forces du soleil, et c'est une matière. C'est une matière dont vous vous servez, que vous utilisez, que vous purifiez. Et vous la modifiez dans la mesure où vous pouvez. Vous la canalisez, vous la captez, vous l'analysez. Donc vous voyez, c'est bien, au fond on peut dire, philosophie de la matière, philosophie de l'univers. Il faudrait peut-être joindre les deux, pour qu'on comprenne bien. Que c'est pas, c'est ce qui est au-delà de l'art. Or, il est évident que le ciel est au-delà de l'art. Et quand on dit l'homme engendre l'homme et le soleil, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est pour la philosophie du vivant. Ça veut dire que le vivant ne peut apparaître que dans un milieu tel. Ce que le savant sera tout à fait d'accord. La vie ne peut pas apparaître en dehors d'un milieu. Il faut un milieu qui soit apte à ça. C'est ce que les anciens disaient, ça avec un petit peu, un aspect un peu mythique. L'homme engendre l'homme avec le soleil. Le soleil, là, est symbole de tout ce qu'on veut. Absolument. Mais c'est vrai, c'est le milieu dans lequel on est. Bon, je pars donc de là, et ça me semble capital. Vous voyez, plus on étudie Aristote, plus on voit l'interdépendance de l'art et de la philosophie de la nature. C'est un des reproches qu'on a fait à Aristote, parce qu'on n'a pas compris. Parce que pour la mentalité moderne, la science doit être beaucoup plus proche de la philosophie que l'art. Alors que c'est l'inverse. L'art a donné naissance à l'idéalisme. Ça, c'est sûr. bien avant la science moderne. Et l'art a donné naissance à une philosophie réaliste, bien avant la science moderne. Donc, vous voyez comment on va faire la philosophie de la matière, la philosophie de l'univers. Ça va se développer comme toutes les philosophies, en se posant des interrogations et des questions. En essayant de se poser la question, faut-il, alors on pourrait ajouter donc, premièrement ça, philosophie, le lien entre les deux. Deuxièmement, on pourrait très bien se poser la question, y a-t-il divers philosophies de la matière ? C'est-à-dire, on aurait tout de suite une grande division, le De Cello et la Terre. Très bien, on doit se poser la question. Est-ce que la philosophie de la matière va tout de suite se distinguer en deux matières ? Une matière immédiatement transformable par l'homme, une matière non transformable. Une telle division dépend de l'art et non pas de la matière. Elle dépend de l'homme par rapport à son pouvoir sur la matière. Je ne connais la matière des corps célestes qu'à partir de la matière de ma terre. C'est pour ça que la terre sur laquelle je suis joue un rôle capital au point de vue de la philosophie de la nature. Et c'est pour ça que ce n'est pas étonnant qu'on en fasse le centre du monde. On en fait le centre de la philosophie de la matière. C'est vrai. Alors il y a peut-être là, vous voyez, un vieux ressentologisme. Puisque si elle est le centre de ma connaissance de la matière, et que j'en fais le centre de l'univers, j'ai projeté sur la réalité ce qui est vrai de la connaissance. Ça, je crois que je peux dire qu'au plan philosophique, la philosophie de la matière telle que je la découvre dans la Terre, sur ma Terre, sur ma petite planète, c'est le centre, c'est le noyau central. C'est à partir de là que je peux essayer de comprendre ce qu'est la matière céleste. Parce que je n'ai pas de connaissance directe de la matière céleste. Je ne peux pas la mettre dans le feu. Tandis que je peux, avec un haut fourneau, ou un petit fourneau, cuire la terre. Je n'ai pas encore fait cette expérience pour les autres. Mais vous la manipulez. Il n'y a pas de reconnaissance. Et puis après, vous essayez de l'analyser. Vous pouvez de temps en temps analyser, maintenant qu'on va dans la Lune. Vous prenez des petits trésors dans votre poche, puis l'analyser. Et voir si la Lune a une chimie particulière. Des corps irréductibles de notre chimie. Bon, c'est second, ça. Ce qui est sûr, c'est que la connaissance de la matière, de la Terre est première, et que les autres, je les connais en fonction de ça. Donc, une seule philosophie de la nature, de la matière. Troisième considération, cette philosophie de la matière, comment est-elle liée à l'homme ? Parce que l'homme est partie de cet univers. Et que les composantes du corps humain sont les mêmes que les composants de notre Terre. Une matière un peu plus élaborée, alors on dira une matière vivante, mais au fond c'est la même. Chimiquement c'est la même. Et ça la science ne fait que dire ça. Donc c'est net, je suis obligé d'étudier cette philosophie de la matière pour comprendre le corps de l'homme. Le corps de l'homme est partie de notre univers. Je crois que ce sont les trois points d'introduction. Alors, on pourrait en mettre un quatrième, vous voyez, pacifier les gens. Et le quatrième serait la critique. Mais on présupposerait le problème résolu, une philosophie de la matière déjà élaborée et une physique déjà élaborée. Et on préciserait la critique entre les deux. Oui, c'est le quatrième point. Comment comprendre les liens qui peuvent exister entre la physique moderne, la biologie moderne, la chimie moderne, l'astrophysique, et puis la philosophie de la matière. Oui, c'est le quatrième point. Et je soulignerai que c'est quelque chose qui est simplement pour qu'on comprenne mieux, pour libérer l'intelligence moderne de l'emprise de la science. C'est pour ça. Alors comment montrer ça? C'est d'essayer de saisir la structure propre d'une connaissance scientifique, physique. Ce qu'a essayé Maritain. Maritain l'a essayé. Je crois qu'on doit le reprendre. Et je vous l'ai dit, je souhaiterais beaucoup que ce soit une œuvre peut-être de longue haleine, mais qu'il se fasse ici. Genre séminaire. Avant de l'éditer, évidemment, il faudra soit un peu fouillé. Je suis persuadé qu'on trouverait des savants qui s'intéresseraient beaucoup à ça. Ça, c'est sûr. Et en définitive, on trouvera la différence entre les mathématiques et la connaissance métaphysique. Mais pas ici. Hein. En définitive. Alors, la science moderne, au point de vue de la physique, c'est toujours la même chose. C'est une science de mensuration. On ne regarde que le mesurable, que le divisible. Tout ce qui est en dehors du divisible et du mesurable ne fait pas partie de la science. C'est très très curieux. Je crois que c'est toujours le mesurable. Il me semble bien. J'ai posé ces questions-là à des physiciens. Alors, ils ne s'étaient pas posé la question, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas à se poser la question en tant que physicien. Dès qu'on leur pose la question, ils disent, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est immesurable. Pour eux, ça ne les inquiète pas. Je comprends. Ils sont dedans. Et pour nous, c'est capital. Parce que vous voyez tout de suite, qu'est-ce qui est mesurable dans notre univers? Les sensibles communs. On en revient tout le temps là. Les sensibles communs. Seuls les sensibles communs sont mesurables. Les sensibles propres ne le sont pas. Donc, j'écarte immédiatement le jugement d'existence. Le jugement d'existence ne fait pas partie de la science physique. Puisque je regarde le divisible. Et que je ne peux atteindre la réalité existante que par les sensibles propres. Et j'essaierai de connaître ce mesurable de la manière la plus précise qui soit, en établissant des relations de nécessité pour établir des lois. Ce que la science cherche à partir d'hypothèses qu'elle a constatées une constatation physique qu'on a expérimentée. On va essayer d'établir des lois. Et alors c'est là où la physique va se distinguer progressivement en diverses parties. Et ce qui m'intéresse au plan philosophique, c'est le point de départ. Est-ce que le point de départ de la physique moderne et de la philosophie de la matière est-il le même ? S'il n'est pas le même, il y aura deux orientations différentes. Alors, quel est le point de départ de ma philosophie de la nature, de la matière ? Mon expérience de ce qui est mu. Donc ici, je pars, point de départ. Et alors ici, je laisse le numéro 4, hein, puisque le numéro 4, on pourrait y revenir tout le temps. Et je prends livre premier. Je pars de l'expérience, ce qui est mu. Ce qui est mu, c'est la matière. La connaissance de la matière, ce qui est mu. Essentiellement, c'est ça. Donc, la réalité sensible. La matière a été sensible, ce qui est mu. Dans ce qui est mu est impliqué un jugement d'existence. Bien est impliqué à un jugement d'existence. Il y a une expérience, il y a un jugement d'existence sous-jacent, qui n'est pas explicité. Ce qui est mu est complexe. Très complexe. Des complexités variantes. Et j'essaie de comprendre dans ce qui est mu, les diverses intelligibilités, en posant l'interrogation. Vous voyez, après une description, vous pouvez décrire ce qui est mu en 50 pages. Vous voyez, toutes vos expériences de ce qui est mu. C'est très multiple. La mer. Émue. Parce que vous avez l'impression qu'elle se meut. Ouais. Elle est émue. Quand vous voyez la mer sauvage, la côte sauvage, avec tout ce que ça représente, le flux et le reflux. Ce qui est mu, les pierres. Ce qui est mu, c'est l'air. Ce qui est mu, c'est le feu. On dirait qu'il se meut. Là, qu'attend Jean de considérer que le feu, ça se meut. En réalité, il est mu. Alors, vous avez tout de suite, hein, dans ce qui est mu, des mouvements différents. Mais ici, je ne regarde que ce qui est commun, ce qui est mu. Donc, il faudrait décrire ça très fort, vous voyez. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de descriptions. Les modernes ont besoin de ça. Aristote n'avait pas besoin. Ce qui est mu, c'est tout.
Comment passer de la matière en tant que transformable à la matière en tant que mu ? Pour montrer bien, c'est pas ça.
Oui.
C'est pas la même,
c'est pas le même regard. C'est pas le même regard, parce que justement, si je disais, c'est le donné antérieur. Vous voyez ? Prenez l'exemple simple du bois. Table. Celle-ci. Oui. Du bois. Il y a des planches. Les planches, ça dit où ça vient. L'arbre. Oui. Alors vous avez une matière inerte transformée qui provient d'une matière vivante et qui a poussé. Première chose, la matière, le bois. Vous pouvez prendre la terre. Cette est transformable, ce que vous pouvez la modeler. Tu prends de le fer en observant du feu. Oui. Alors, il y a un double regard, ce regard de celui qui regarde cette pierre ou cette argile en tant que je peux la modeler, ou en tant qu'elle est. Vous agissez tout à l'heure, bien regarder la différence du regard, d'une connaissance de la matière pour elle-même et de la matière en tant qu'elle est changée. Donc c'est la finalité du regard.
Parce que les scientifiques acceptent qu'on peut regarder comme l'artiste la matière.
Tout à fait.
En tant que changeable, mais ils n'acceptent pas ce passage.
Non, parce qu'il y a l'expérience et les sensibles propres. Oui. Le marxiste n'accepte pas ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais la matière, c'est ce qui est transformé, la praxis. La matière ne peut être connue que quand je la transforme. Elle est connue en tant que la transforme. C'est très intéressant, vous voyez, parce que ça montre le caractère potentiel de la nature, de la matière, qui n'est connaissable que quand je l'actue. C'est vrai qu'il y a une connaissance nouvelle, mais ce n'est pas la connaissance de la matière comme telle. C'est la matière en tant qu'elle est relative à l'artiste. Je ne dis même pas en tant qu'elle est relative à l'homme, à l'artiste. Oui. Et je peux regarder cette matière pour elle-même. Oui. Je prenais l'exemple que je vous ai déjà dit avec les psychanalystes. On amène les amis, et ils regardent tout de suite, tiens, celui-là, il aura besoin d'une analyse. Comme si on amenait un client qui tombe immédiatement sous le regard du psychanalyste. Alors qu'on dit, mais non, mais est-ce que vous êtes capable de regarder un homme pour lui-même et non pas en tant qu'il est client? Oui. Donc, il y a l'intention de l'homme dans son regard. Et tu restes à soi tout de suite. Quand vous êtes avec des gens spécialistes de regarder les arbres pour savoir si ça va donner, c'est une manière qui peut être vendue à l'usine ou pas. Il regarde tout de suite, tout à fait autrement que quand on regarde ça de façon artistique. Quand vous regardez l'artistique, vous regardez le givre qui est dans les arbres, vous regardez, c'est admirable. Vous regardez les arbres qui bougent, et ainsi de suite, c'est poétique. Si vous regardez une forêt pour voir ce qu'elle peut être rendable au point de vue usine pour couper le bois, regardez sous un autre angle. Oui, donc il y a dans l'intention quelque chose de différent et qui correspond à la réalité. Mais la même réalité peut être regardée sous deux intentions différentes. La matière, avant d'être travaillée, la matière pour elle-même.
Oui. Donc la philosophie de l'art, elle me conduit au seuil de la philosophie de la nature.
Au seuil, pas plus.
Et la philosophie de la nature repose sur une expérience propre de cette
philosophie. Oui, tout à fait. Une expérience nouvelle.
Mais comment est-ce que je peux, je dirais, cerner cette expérience? Parce que, comme, où va la frontière avec l'expérience du vivant, l'expérience de l'expérience?
C'est tout de suite le passage d'une connaissance pratique à une connaissance dite contemplative. La connaissance pratique est ordonnée à l'œuvre, et toute la matière est dans l'œuvre. La connaissance contemplative, c'est la vérité que je cherche pour elle-même. Connaître cette matière pour elle-même.
Parce que les scientifiques, ils prétendent par la formalisation de les mathématiques aussi de regarder de manière désintéressée pour elle-même.
Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Mais vous voyez, c'est une formalisation. Ce n'est plus la réalité elle-même, le genre d'existence. Oui.
Donc la production par ouvert en connaissant de la matière en perfection métaphysique par rapport à la puissance. Tout le domaine de la puissance, par exemple, dans le champ de la matière première.
Oui, oui, mais pas la matière première. Parlons pas. Je n'ai pas l'expérience de la matière première.
Mais si vous êtes cherché le
Oui.
Il recherche quand même la matière qui est la plus proche.
Oui, mais vous voyez, ici je prends matière dans le sens où Aristote appelle phusis. Tout ce qui est sensible, que j'essaie d'étudier et de connaître pour elle-même. Et je pose la question, qu'est-ce que c'est cette matière? Oui, tandis que l'artiste, quand il va regarder le bois, il va tout de suite penser, qu'est-ce que je peux en faire? Que je peux en faire une porte, une arme, une table. Oui, tout de suite, c'est ordonné à l'œuvre. Comme celui qui va acheter des arbres dans une forêt, il regarde tout de suite. Qu'est-ce que ces arbres pourront donner? Et c'est là où on voit tout de suite que combien c'est intéressant de voir que la connaissance est orientée sur le plan philosophique, le reste humain. La formalisation mathématique, c'est autre chose. Grâce à la formalisation mathématique, j'aurai une connaissance précise. Mais je n'aurai pas la connaissance de ce bois ou de cette matière. Je pourrai davantage la manipuler, la doser. Surtout dans une connaissance scientifique très poussée. Vous voyez, la mathématisation, c'est pour que la connaissance physique aille plus loin, comme connaissance, dans la généralisation de ces lois. Oui. Et c'est cette généralisation de ces lois qui est importante. Deo gratias. C'est ça qui est important. Oui. Mais puisqu'on a été loin de la fin de la. Oui, il y a quelque chose à. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une abstraction aussi dans la philosophie de la matière?
Ah, mais oui, il y a une abstraction, mais tout à fait différente. Mais ça, on ne la voit pas tout de suite, parce qu'on est au début. Ici, on essaie de voir quel lien de continuité et de discontinuité qui existe entre philosophie de l'art. Et philosophie de la matière, c'est ça. Continuité et discontinuité. Je dis continuité parce que l'art, la philosophie de la connaissance artistique me pose le problème. Vous voyez, dans la scolastique, la connaissance spéculative était posée en premier lieu. Et la connaissance pratique était posée en second lieu. Sauf que le problème était tout à fait différent. Je regardais la réalité, puis je disais, qu'est-ce que c'est? Si jamais posé le problème comme ça, quoi. C'est pas comme ça que ça se pose. Tandis que l'artiste, c'est quand même le premier qui connaît la réalité. L'art était bien avant la philosophie de la nature. L'art était bien avant la science. C'est l'art qui est le plus ancien. Il a un droit d'ancienneté. Génétiquement, il est premier. Ça, vous n'en pouvez rien, c'est comme ça. C'est pour ça que l'artiste restera fondamentalement le sage. Et c'est vrai. Quand vous voyez un sculpteur comme Muguet, je vous affirme, c'était un sage. Quand on était, qu'on allait chez lui et qu'on bavardait avec lui, avec un petit verre, évidemment, bon artiste, c'est ce que pour aider un peu, ça faisait de la mousse, on aurait parlé toute la journée. C'est un sage, à la fin de sa vie. Il avait réfléchi sur un tas de choses, comme artiste. Et il aimait de rencontrer des philosophes qui réfléchissent à partir de là. Ah, bien, vous m'enlevez un problème. J'étais toujours posé comme, ah, vous l'expliquez. Et alors, tout de suite, une amitié. Parce qu'on touchait les mêmes problèmes. Et ça, c'est vrai pour tous les grands artistes, c'est comme ça. Et lui avait, vous voyez, la qualité de ces vieux artistes qui vivaient dans son monde. Et c'était l'homme en définitive. Toujours l'homme. Toutes ces sculptures, c'était l'homme. Mais c'est je crois, ça qui est important à voir, c'est que l'artiste se heurte devant une matière qu'il ne connaît pas et qu'il voudrait bien connaître. Et c'est pour ça que l'au-delà de là, le méta-art, c'est tout de suite la philosophie de la matière. Puis la méta-philosophie de la matière sera la philosophie première. Puis entre deux philosophies du vivant. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir. Donc là, il y a un problème. Réfléchissez-vous. Parce que pour moi, c'est très intéressant de voir ça. Et c'est très important. On ne l'a jamais fait. Moi, je n'ai jamais vu le faire. Aucun thomiste, parce qu'ils ne sont pas venus aristotéliciens. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit le poser comme ça. C'est pour ça que j'aime. Oui, on fait ça en séminaire.